Radio Campus
7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, oui, bonsoir chers auditeurs. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans et voilà, ça c'est éteint. Donc vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans et maintenant c'est l'heure de parler d'actualité cinématographique. Et je ne serai pas toute seule ce soir car avec moi, eh bien, il y a Arthur. Bonsoir Arthur.
Bonsoir à toutes et à tous.
Comment tu vas ?
Ça va et toi ?
Oui, ça va plutôt bien là, avec ce joli soleil, ça fait du bien.
Il fait très beau aujourd'hui.
Oui. alors, pour débuter cette émission, on va commencer avec un petit agenda pour vous proposer quelques dates. Et j'en ai une plus... zut, je ne l'ai pas ici. J'arrive. Alors, la première date, il s'agit... d'une avant-première du film La machine à écrire et autres sources de tracas, le dernier film de Nicolas Philibert, qui est en fait le dernier volet de son triptyque après ses films sur l'Adamant et Averroès et Rosa Parks. Donc là, c'est l'avant-première de son dernier. Et ce sera le 11 avril, donc demain, à 19h30 au Cinéma Les Carmes, en sa présence. Et j'avais aussi une suggestion, car en ce moment, c'est la semaine du Japon. Enfin, en ce moment, non, pas en ce moment. Ça va être... j'ai retrouvé les dates. Donc, la semaine du Japon, au Cinéma Les Carmes, nous avons... j'ai deux dates, mais la première date, il y a deux films. Donc le vendredi 26 avril à 19h30, il y a deux films. Si je comprends bien le site du Cinéma Les Carmes, il y a donc deux films de Takeshi Kitano. Donc le premier, Kids Return, et le deuxième, A Scene at the Sea. Alors, je ne sais pas si... c'est bizarre, ces deux films, deux longs métrages. Les deux sont annoncés le vendredi 26 avril à 19h30. Je ne sais pas si c'est une erreur de date ou si les films s'enchaînent. Bon, et la dernière date pour la semaine du Japon, c'est le dimanche 28 avril à 16h avec un film de Takehiko Inoue, The First Slam Dunk. On aime beaucoup le cinéma japonais, donc on vous conseille vivement ces quelques dates. Voilà, et puis toi Arthur, je crois que tu as aussi quelque chose d'inédit à nous annoncer.
Oui, je voulais parler peut-être pas inédit, c'est sorti cette nuit à 3h30 du matin, bon j'étais pas debout pour suivre, mais c'est la bonne annonce du film Joker Folia 2 qui sortira le 2 octobre 2024. Donc ce sera la suite du film sorti en 2019 et qui sera toujours réalisé par Todd Phillips avec toujours Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker et petite nouveauté, Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn.
Ok. Donc,
et la bonne annonce est très cool. Elle est assez spéciale, mais parce que le film s'annonce assez spécial puisqu'il y aurait un air comédie musicale.
Ah ouais.
Très inattendu. Bon, en même temps, il y a Lady Gaga, donc on l'attend. Mais après, ils n'ont pas trop insisté dessus dans la bonne annonce, mais ça a l'air vraiment bien.
Ça t'a donné envie, en tout cas, d'aller
le
voir ?
Ça m'a donné envie. J'avais pas forcément d'attente pour ce film. Le premier, je le trouve très cool, sans plus. Et là, le deuxième, il m'a dit « Ah oui, peut-être ». En plus, je suis dans une phase un peu comédie musicale, entre gros guillemets. Donc,
ça tombe bien.
Après, il sort en octobre, donc ça se trouve, ce sera passé. Mais on espère, on croise les doigts, surtout au vu des derniers films DC Comics. Pas toujours très bien. Donc, on espère. En plus, c'est le seul film DC Comics de cette année. Donc,
c'est le seul qui sort cette année. Oui, donc, grosse pression.
Ouais. Et après, c'est 2025 avec le nouveau film Superman de James Gunn.
Ok, très bien.
Et donc, oui, grosse pression pour Joker. Le premier film avait fait le milliard. Là, ça va être compliqué de refaire le milliard, parce qu'il y a le Covid qui est passé entre-temps, donc plus dur. Mais en même temps, c'est Joker, donc je sais pas, c'est très mitigé. Moi, j'espère au moins une bonne surprise. J'irai le voir au cinéma, le premier film, je l'avais pas vu au cinéma, donc je croise les doigts très fort.
C'est vrai que c'est plutôt assez apprécié du grand public, et donc il devrait y avoir pas mal de monde au début. Et s'il est vraiment bon, le film, il devrait...
Avec le bouche-oreille.
Oui, s'il est bon, ça devrait marcher.
Après, il y a le côté comédie musicale qui peut en rebuter certains. Après, des fois...
Ou susciter de la curiosité.
Oui, voilà, ou susciter de la curiosité. Après, les studios, c'est toujours Warner qui produit, ceux qui avaient produit le film Wonka. Et sur la communication de Wonka, ils n'avaient pas trop insisté sur le fait comédie musicale. De ce que j'ai compris, je n'ai pas vu le film. Donc ça se trouve, je dis des bêtises. Mais peut-être que sur le coup, ça peut marcher. Parce que Wonka a très bien marché. Et là, en plus, y a Joker, la suite, personnage hyper connu. Donc, normalement, il y a tout qui est fait pour fonctionner. La même équipe, tout qui a l'air en mieux. Donc... Il n'y a pas de raison que ça marche pas.
Effectivement. Après, oui, c'est vrai que l'aspect comédie musicale pour le sujet, oui, ça peut être délicat, mais...
Oui, c'est un parti pris osé. Mm-hmm. Mais le premier film avait déjà un parti pris osé. Bah, déjà, juste le fait de faire un film Joker est un parti pris osé, mais là, je pense que ça peut fonctionner. En plus, il y a Lady Gaga, ça peut peut-être ramener les gens, je ne sais pas.
Oui, ouais, un public je pas plus large. Je ne sais pas, c'est peut-être le même public.
C'est deux publics différents, je suppose.
J'ai aucune idée. En tout cas, c'est le même réalisateur.
Oui, Todd Phillips.
D'accord.
Alors, j'ai plus qu'il a réalisé avant, mais...
Oui, il est...
Je dis peut-être des bêtises. Non, j'allais dire, c'est lui qui réalise le prochain film Gladiator. Pas du tout. Non, c'est Joaquin Phoenix qui est dans le prochain film Gladiator. J'inverse. Mais je sais plus ce qu'il a réalisé, Todd Phillips. Je crois qu'il a dû réaliser un truc entre-temps, mais...
Je sais plus non plus en tête, mais je peux le... retrouver assez rapidement, mais c'est vrai que rien que le précédent Joker, en termes de réalisation, d'image, l'esthétisme était bien travaillé, c'était assez agréable comme film. Enfin, il
est perturbant le film.
Il est perturbant, voilà, ouais, c'est tout à fait le mot.
Mais ça fonctionne. Et c'est techniquement ce qu'on attend d'un film Joker. On s'attend pas au film avec beaucoup de blagues et tout, ce qui est paradoxal pour un clown, mais ça fait... Et en plus, c'est une bonne critique de la société, le film. C'est comment la société crée des monstres. J'ai vu une très belle vidéo, je sais plus de qui avait parlé du sujet, et c'était très intéressant. Et il faisait des parallèles avec des personnes dans la vraie vie. Et d'ailleurs, le film, je crois, il avait fait un peu scandale, parce que il y avait eu des gens, entre guillemets, qui s'étaient inspirés, qui n'avaient pas fait des choses très très bien.
Inspirés du Joker.
Oui, inspirés du Joker, voilà. Mais il y avait eu la même chose à l'époque, c'était la trilogie de Batman de Christopher Nolan, donc The Dark Knight Rises. Et il y avait eu, pareil, je crois, il y avait eu une fusillade dans un cinéma au nom du message du film, entre gros guillemets.
Oui, après.
Ça, il y a.
Mais ça sera un débat intéressant, effectivement, la conséquence de la violence au cinéma. Mais après, la violence, on en voit rien qu'au JT. Mais ce serait intéressant d'en discuter. Mais ça pourrait prendre une émission entière.
Oui.
Et je regardais Todd Phillips. Alors, c'est le réalisateur des Very Bad Trip. Après dans les films, je connais pas A Star Is Born.
C'est lui qui a fait A Star Is Born.
Bah apparemment.
Et il a déjà travaillé avec Lady Gaga du coup.
Ah, c'est Lady Gaga qui est dedans.
Oui. D'accord. C'est avec Bradley Cooper.
Il y a Borat. Il a fait quoi? Il en a fait plein, mais alors. Le Starsky et Hutch. L'adaptation cinéma. Ok. Mais je crois que Joker, c'est quand même un autre niveau.
Oui, là, c'est... Je sais plus du tout, mais je crois qu'il a eu un Oscar pour le film.
Ça me dit quelque chose. C'est possible.
Il a dû avoir un Oscar pour...
Je sais pas du tout.
Le film a sûrement eu un Oscar. Après, est-ce que c'est meilleure réalisation? Est-ce que c'est meilleur acteur? Je sais plus.
J'essaie de te trouver ça en même temps, qu'on cherche...
Parce qu'après 2019, il y a eu aussi énormément de films, des grosses peintures, donc peut-être qu'il ne l'a pas eu.
Mais vu la qualité cinématographique, ce serait pas étonnant. Je regarde. Dis donc, c'est une émission bien préparée. Eh bien.
On parle de choses. Et...
il a eu pas mal de prix, effectivement, Joker. Oui. Il y a Joaquin Phoenix qui a eu l'Oscar du meilleur acteur.
Voilà, c'est ce qui me semblait.
Le British Academy Film Award aussi, du meilleur acteur. La musique, mais oui, elle a eu le Golden Globe, ouais, Hildur Donatotir, enfin, oh, j'adore son travail.
Là, si ça part sur une comédie musicale en plus.
Oui, du coup.
Alors, il a encore plus de chances de son côté.
Effectivement, et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Aussi, l'Oscar de la meilleure musique de film. Voilà, la musique a effectivement été très bien. Le Lion d'Or hein, pour Todd Phillips. Oui, il y a eu pas mal de récompenses. Hein.
Cette année, ça va être compliqué, les récompenses. Hein. On a eu un gros morceau qui est sorti il y a quelques semaines déjà.
Avec
donc,
Dune
ouais.
c'est très bien, dis donc, pour faire l'enchaînement.
Mais... et encore, là, on n'est qu'en avril. Hein,
oui, l'année n'est pas finie. Eh bien, justement, Dune, on vous propose d'écouter un morceau de la bande originale. Et puis on pense vous en parler juste après car nous avons vu la deuxième partie et donc on écoute la BO de Hans Zimmer et on se retrouve juste après.
Thank you.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. On vient d'écouter un morceau de la bande originale de Dune. Mmh. Et qui est vraiment incroyable, ce travail de Hans Zimmer qui est toujours trop fort
Hans Zimmer.
Ouais, j'aime beaucoup. Il a reçu aussi des récompenses, en tout cas sur la première partie de Dune, il a eu l'Oscar de la meilleure musique originale. Donc, c'est toujours un plaisir d'écouter. Alors, Dune, deuxième partie, donc toujours réalisée par Denis Villeneuve. Peut-être de rappeler pour les personnes qui ne sauraient peut-être pas que Dune, c'est une adaptation du roman SF de l'américain Frank Herbert, qui a été publié en 1965. Et rapidement, pour résumer, donc, l'histoire se déroule dans un empire interstellaire féodal où il y a plusieurs maisons qui s'affrontent le contrôle de la planète Arrakis, qui est également baptisée Dune par ses habitants, les Fremen, où on y trouve donc l'épice qui est très, très convoitée. Voilà. Et donc, dans cette deuxième partie, on retrouve Paul Atreides. On rappelle que dans la première partie, son père est tué.
Oui.
Et qui reste donc Paul et sa mère donc Jessica, et que donc dans cette deuxième partie, Paul et sa mère s'unissent aux Fremen, donc ils rejoignent en tout cas les Fremen, et ça reprend vraiment la suite, mais image pour image, hein, on pourrait coller les deux films, c'est vraiment la suite. Au niveau de l'action, c'est exactement la suite. Et donc Paul et Jessica rejoignent les Fremen, donc ce peuple de Arrakis, et donc ils vont lutter contre les colons, notamment les Harkonnen.
Oui. Je cherche le nom justement.
Voilà, la famille Harkonnen qui cherche donc à coloniser donc Arrakis Dune et donc à exploiter l'épice. Alors, Villeneuve, en fait, à travers l'œuvre de Herbert, il dénonce donc cette société qui est guidée par des puissants qui sont capables d'imposer des croyances, de manipuler un peuple entier. C'est vraiment intéressant, l'histoire géopolitique. Et aussi, Villeneuve met en garde contre le pouvoir de la religion, du fanatisme, qui est aussi représentée par les Bene Gesserit, donc ces femmes, cette organisation religieuse semi-mystique qui est donc composée que de femmes, dont Jessica, ouais. Donc la mère de Paul, en fait partie. Et Jessica qui est convaincue que son fils Paul est le Messie. Et donc dans cette deuxième partie, pour Jessica, je trouve, je ne sais pas si toi tu as lu le roman.
Non,
t'as
j'ai eu pas
cette...
lu le roman.
Dans le roman, en fait, dans la deuxième partie, elle correspond bien plus au personnage du roman, parce que dans la première partie, elle était beaucoup plus fragile. Enfin, je l'ai trouvée beaucoup plus, même un peu pleurnicharde, un peu trop sensible. Alors que là, dans la deuxième partie, elle est beaucoup plus combative.
Elle est froide dans le film.
Elle est froide. Trouve, ouais. Elle est très froide. Tout à fait.
Elle
d'accord.
Fait peur des fois même en plus.
Oui. Comment son personnage évolue dans cette manipulation qu'elle crée, c'est flippant. Et ce que j'ai aimé aussi dans le travail de Villeneuve, c'est qu'il a déjà dans le roman il y a une approche progressiste entre l'homme et la femme, et j'ai trouvé du coup qu'il était aussi Villeneuve. Il n'y a pas non plus tant de différence que ça entre l'homme et la femme. Il y a un travail qui est, je trouve, identique des personnages, avec des places aussi importantes. Je pense donc il y a Jessica qui est un personnage important, mais il y a aussi Shani.
Oui.
Shani, donc l'amie, cette amie compagne bientôt donc de Paul, qui est un personnage aussi très important, qui est aussi combatif et qui est la seule à rester lucide en fait et non croyante. Et c'est aussi très très intéressant que ce soit ce personnage Shani qui est totalement différent dans le roman et qui est pas aussi combatif.
Dans le film, elle a beaucoup de réflexions philosophiques. D'ailleurs, je crois que c'est elle qui dit que tout le monde est égaux face au désert.
Oui.
En fait, elle croit plus en la planète et en le désert qu'en l'ordre religieux.
Mm-hmm. Tout à fait.
Et oui, c'est la seule qui suit. Au début, ils sont quand même au moins la moitié à ne pas croire ça. Et finalement, en fait, au fur et à mesure, ça change complètement. Et elle se retrouve ouais, même seule. Voilà, le personnage de Josh Brolin, j'ai oublié le nom du personnage. Je crois que ça commence par un G, quelque chose du genre. Et qui est quand même assez secondaire, du coup, dans le film. Et je trouve même qu'il débarque un peu de nulle part pour pas grand-chose, au final.
C'est un des maîtres de Paul.
Oui, c'est un des maîtres de Paul.
Je sais plus le nom de son personnage.
J'ai plus le nom.
Effectivement, il revient dans la deuxième partie un peu plus tard.
Mais en fait, je trouve qu'il revient un peu de nulle part. En mode, tiens, je tombe sur toi par hasard. Oh, et en plus, tiens, j'ai trouvé les explosifs, entre guillemets.
Tu trouves ça un peu trop facile ?
Ouais, j'ai trouvé ça facile. Ça m'a un peu sorti sur le coup du film. Après, moi, le personnage, je l'aime beaucoup. Mais j'étais en mode, ok. C'est un peu facile. Et c'est surtout pour. Il a sa revanche à la fin. Revanche que j'ai trouvé expédiée complètement.
Mais c'est peut-être aussi ce personnage, parce que ça reste la maison Atreides, en fait, qui est encore vivante. Enfin, même Paul. Donc, Paul est vivant avec sa mère. Et lui aussi, donc le maître de Paul, un des enseignants de Paul qui reste encore vivant, il va être aussi un peu aussi un influenceur pour Paul dans sa décision.
Je trouve pas tant que ça finalement. Je trouve que ça manque d'une discussion entre les deux, vraiment posée sans personne autour. Et je trouve qu'il n'y a pas ça en fait.
T'as pas cette sensation en tant que messie, parce que Paul, pour lui, il n'a pas l'impression d'être le messie. Et puis les rêves qu'il fait le font peur, en fait. Il a vraiment cette crainte d'y aller et il sait qu'il ne devrait pas. Et alors j'ai l'impression qu'il l'influence un peu. Alors peut-être que...
Sur la question des armes atomiques, peut-être, mais vraiment que sur ça. Et justement,
pour inquiéter.
Mais c'est le truc un peu du... regarde, oh tiens, en fait, on a ça de libre, vraiment comme ça. Puis même, je trouve l'explication dans le film, dans le roman, c'est peut-être la même, je sais pas, du « Oh, bah en fait, on l'a jamais regardé là. »
Oui, oui.
Bon, t'es censé connaître le désert, c'est très bizarre. Et surtout qu'il n'y a pas vraiment de système de protection. C'est tu as la main. Et...
C'est vrai que comparé dans le livre, c'est beaucoup plus détaillé. Il y a énormément de choses. Enfin, il a beaucoup simplifié.
Après,
Il a beaucoup, beaucoup simplifié. Sinon, ce serait peut-être difficile de partir dans tous les sens. Et il est resté sur quelque chose peut-être plutôt plus abordable et dans une histoire narrative qui je comprends mais moi aussi j'ai été un peu dérangée surtout que ça prend beaucoup de temps l'adaptation de Paul et de Jessica chez les Fremen on prend le temps et pourquoi pas
parce qu'il y a les trois gros quarts du film
ouais et d'un coup en fait on accélère au moment où il va descendre dans le sud.
J'ai trouvé peut-être l'accélération un peu rapide d'ailleurs.
Ouais, toi aussi. Ouais.
Moi j'étais en mode, attends, tu t'as dit non ? En fait, si.
Et ça se fait en 5 minutes à peine. Il boit la potion et hop, ça y est, c'est vrai que c'est assez expéditif.
Ouais. Alors qu'on a passé quand même une bonne heure et demie, voire quasiment 2 heures à dire non, il faut justement pas que j'écoute le culte de ma mère. Je lui reproche même et au final, en fait.
Il y va. Ça c'est effectivement un peu rapide du coup ça paraît un peu simple mais Mais il y a tellement d'autres choses sur lesquelles il se rattrape, enfin, tout ce rapport de géopolitique. Et puis, j'ai bien aimé aussi comment il travaille l'image entre la famille Harkonnen qui est très froide, qui représente une idéologie fasciste, et on sent effectivement ce côté binaire. Et même la musique est très industrielle, en fait. Il y a cet univers, c'est vraiment tranché avec le monde des Fremen qui est dans le désert, donc c'est très lumineux,
très chaleureux aussi.
Oui, avec des sons beaucoup plus naturels, avec des plans très larges aussi, comparé au Harkonnen où c'est des plans serrés. Quand ils sont dans leur manoir, j'ai l'impression. Et c'est alors que il a vraiment joué sur vraiment cette différenciation de l'image que j'ai bien aimée. Et puis c'est aussi la question du bien et du mal, parce que la fin du film, enfin, on va pas aller jusqu'à détailler la fin du film, mais moi ça me questionne sur justement. On pense qu'il y a le bien, mais finalement, est-ce que le bien ne serait pas le mal ? C'est hyper intéressant en termes de position, de domination, de pouvoir, de géopolitique. J'ai vraiment aimé.
Oui, non, il y a beaucoup de références historiques, notamment à la découverte du Nouveau Monde en Amérique, où justement on va imposer la religion et tout. Je trouve ça très intéressant, moi.
Oui, puis en plus, Paul, c'est chez les Fremen, c'est un peu l'homme blanc, là, l'homme blanc, le sauveur, en fait, qui arrive et qui arrive à défendre les Fremen. Et voilà, il y a un peu ce regard critique de ce personnage de sauveur blanc. Du coup, ça pose plein de questions. Je trouve que c'est vraiment intéressant, et du coup, ça nous ramène à notre propre société et aux propres aux dominations et au pouvoir. Voilà, c'est hyper hyper intéressant.
Je voudrais saluer le jeu des acteurs incroyable.
Oui, ouais.
Timothée Chalamet surtout.
On l'aime bien.
Son discours, il m'a fait quand même, il m'a fait les poils. Son discours vers la fin, je sais plus à combien de temps exactement, mais je trouve incroyable. C'est pas ma prestation préférée de cette année. Hein. Je lui donnerai pas l'Oscar du meilleur acteur pour l'instant, mais il est bien placé.
Ouais, effectivement, il est pas mal, hein, pas mal du tout. Hein. Mais ils sont tous, hein, toutes.
La mère, elle me faisait peur. et c'est Austin Butler qui joue le méchant.
Pareil, il est incroyable.
Exceptionnel.
On le reconnaît à peine en plus, hein, avec le maquillage.
Déjà, je crois qu'il s'est rasé les sourcils.
Oui, sûrement.
Parce que je crois qu'ils n'ont aucune pilosité, les Harkonnen.
Cette blancheur morbide, terrifiante.
Et même dans le désert, finalement, en fait, sur leur planète, ils sont en noir et blanc, mais même dans le désert, tu as l'impression qu'il est en noir et blanc. et il fait très opposé.
Très, c'est dans l'opposition, effectivement.
D'ailleurs, j'ai adoré leur combat avec Paul. Ouais. Je trouve que c'est un combat exceptionnel.
Ouais.
Et il a fait le choix de ne pas mettre de musique, et ça rend le tout encore mieux.
Le suspense, une très belle chorégraphie.
Le bruit des couteaux, c'est exceptionnel.
Ouais, je suis d'accord. Le son est très, très important. D'ailleurs, j'ai eu la chance de le voir au Grand Rex, et vraiment, je vous conseille d'aller, si vous pouvez, aller à Paris dans cette salle de cinéma, qui est juste au niveau de l'équipement.
C'est pas IMAX.
Si, il y a un écran.
IMAX, ça doit valoir le coup. Moi, je l'ai pas vu en IMAX, mais je l'ai vu deux fois le film, donc j'ai pu en profiter du coup une deuxième fois sur certaines choses, parce que moi en plus j'ai fait très bien ça le film. J'ai vu Dune 2 avant Dune 1, mais
ah ouais.
Ouais. En fait, le premier film.
Et ça a été.
Ouais, en fait, le deuxième film, à part le personnage du coup de Josh Brolin, qui est du coup sur le coup, la première fois que j'ai vu le film, en mode « Ah, qu'est-ce qu'il fait là ?» Et après, du coup, j'ai vu Dune 1, donc j'ai compris qui c'était. Et du coup, j'ai revu Dune 2, mais j'étais en mode « Bah non, en fait, ça marche toujours pas, mais...
» Ah, mais t'as quand même pu... parce que moi, j'ai l'impression qu'il vaut mieux voir quand même la partie 1.
Oui, avant la partie 2. C'est juste qu'en fait, moi, c'est très paradoxal. J'aurais pu le faire comme ça, mais c'est juste que j'avais pas envie d'attendre parce que pendant une semaine, je pouvais pas y aller. Donc j'étais en mode, bah, autant aller le voir là. Surtout que du coup, après, il y avait d'autres films qui arrivaient. Donc
mais t'as réussi à suivre, hein, donc ça va. Justement, oui, on se posait la question.
Moi, j'ai quasiment tout compris à 90%, à part le personnage de Josh Brolin et quelques éléments de contexte au final, mais après, en vrai, ça allait, quoi.
D'accord. Non, c'est intéressant. Vraiment, je pensais que c'était vraiment nécessaire d'avoir la première partie. Ok. Ouais,
c'est vraiment l'entrée dans le film qui est un peu dure. Faut se mettre dans le
contexte. Ah bah ouais, tu m'étonnes.
Mais en vrai, ça va assez vite.
Parce que t'as pas tout le contexte avec la famille Atreides et
c'est
comment.
C'est vraiment le contexte, qui manque. Mm-hmm. Après, ça va. J'ai l'impression au début, ils font quand même un mini résumé. Donc ça va à peu près. Ils disent oui, il y avait la famille de Paul avant qu'ils contrôlaient. Mm-hmm. Puis en fait, t'as les Harkonnen qui sont arrivés, qui ont tout tué, et qui ont pris le contrôle. Et que du coup, bah, Paul, c'est le dernier survivant.
Mais même avec les Bene Gesserit, hein, je ne sais pas si tu as pu suivre, en fait.
J'ai eu un peu de mal au début, mais en vrai, ça allait. Parce que ça reste à la fois une part mineure et une part grande, en fait.
Bah ouais, parce qu'en fait, elles sont importantes.
Il y a le culte des Bene Gesserit classiques et il y a le culte des Fremen,
ouais,
qui est légèrement différent. Mmh. Et comme ils s'attardent beaucoup plus sur la partie Fremen,
oui.
Alors que dans le premier film, ils s'attardent beaucoup plus sur la partie Bene Gesserit, oui. Bah ça allait, je comprenais. Et oui, quand on passait sur la partie de la princesse, de l'empereur, j'étais en mode ah oui, bon, c'est un peu dur à suivre, mais ça allait. Donc,
Ok, bon, moi je vous dirais quand même d'aller voir la première partie avant, pour vraiment apprécier, vraiment tout apprécier.
En plus, c'est fou parce que du coup la première partie je l'ai vue après, mais du coup je l'ai pas vue au cinéma, et j'ai beaucoup moins accroché à cette deuxième partie. Mais peut-être aussi parce qu'il y avait l'effet que tout le monde dit c'est trop bien, et qu'au final, bon.
Oui, on peut être déçu à force d'entendre. C'est le risque. Après, moi, en plus, en ayant lu les bouquins, j'ai vraiment une attente. Et je trouve que l'univers que nous propose Villeneuve est peut-être le plus proche de ce qu'on lit, en fait. C'est vraiment agréable et je conseille vraiment les salles, enfin le Grand Rex, je reviens sur le Grand Rex, mais la qualité du son c'est hyper important parce que dans certaines salles le son est hyper agressif, alors que pas du tout, enfin c'est plutôt très puissant et ça je l'ai vraiment retrouvé qu'au Grand Rex et c'est pas la première fois. Parce que pour Oppenheimer aussi, je l'avais vu en IMAX dans une autre salle où c'était catastrophique. Et qu'au Grand Rex, il y a une qualité de son. Je conseille l'expérience du Grand Rex qui est vraiment, vraiment à faire.
Bon, j'en doute pas.
Alors, eh bien, dis donc, on arrive déjà aux trois quarts de l'émission. Je vous propose... du coup, d'avoir une petite pause musicale avant d'enchaîner sur le prochain film. D'ailleurs, Arthur, tu nous parleras de hors saison. Du coup, je vous propose d'écouter un morceau. Un morceau de la bande originale du film qui est créé par Vincent Delerme. Donc, on écoute et puis on en parle juste après.
Montre-moi comment tu t'excuserais.
Ah, je m'excuse.
C'est ça? C'est ça, tes excuses?
Bah ouais.
Non, non, non. On va la refaire. Vraiment. Une deuxième prise. Mais vraiment, essaye vraiment de faire plaisir à l'autre. Avec plus d'intention, plus sincère. Vas-y.
Alice, vraiment, je te prie de m'excuser. Vraiment.
Merci.
Tu sais comme je suis. Tu sais déjà. Tu connais ma vie. Et ma vie me va. Ne conti né senza di te. Ni avec toi, ni sans toi. la terrasse, les volets fermés. Te voilà. Tu sais comme je suis. Tu sais la plage à 5 heures. Mes hivers ici et ma tête ailleurs. Ne conté ni senza di te, ni avec toi, ni sans toi. La falaise, la nuit, les rochers. Te voilà.
Tout ça existe juste dans mon téléphone. Dans ma tête aussi, oui. Sur des petits papiers, mais c'est vraiment caché en moi.
Tu sais comme je suis, moi qui ne sais pas s'il faut dans ma vie cette histoire-là.
Tu veux vraiment que ça se termine comme ça?
Ne conté ni senza di te.
Peut-être, oui.
Ni avec toi, ni sans toi. Le silence, la chambre au premier.
Tu peux pas dire une chose pareille.
Me voilà.
Il y a des gens comme toi et il y a des gens comme moi.
Tu sais comme je suis.
Et moi, je suis comme ça.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. On vient d'écouter un morceau de Vincent Delerme qui a donc créé la bande originale du film Hors Saison qui a été réalisé par Stéphane Brisé avec Guillaume Canet et Alba Rohrbecker. Arthur, toi tu l'as vu?
Oui,
pas moi.
Je l'ai vu il y a quelques semaines déjà et je peux dire que c'est un très bon film. Pas un excellent film, mais c'est un bon film à regarder, très agréable, très contemplatif, très sobre aussi. C'est vraiment les meilleurs adjectifs que j'ai pour décrire ce film, sur une introspection du personnage de Guillaume Canet. Alors j'ai plus le nom des personnages du tout, donc je vais utiliser le nom des acteurs. Mais c'est vraiment une introspection du personnage dans un lieu très sobre, très calme aussi. Voilà, la musique, je la trouve excellente. Toujours dans les ambiances. C'est pas comme Dune où il y a des musiques majestueuses. C'est deux personnages, par exemple, qui s'assoient et qui parlent de la vie, de ce qui se passe. C'est très contemplatif, la caméra elle bouge pas, genre il y a trois plans dans la discussion à peine, et ça sur genre 10 minutes, donc non, je recommande vraiment ce film.
Et tu connais un peu le cinéma de Stéphane Brisé?
Absolument pas.
Parce que Stéphane Brisé est plutôt connu pour un cinéma militant, engagé. Il y a notamment En guerre, La loi du marché. Enfin, ce sont des films très, très militants, avec une façon de filmer qui utilise les codes du documentaire. Ce sont de très bons films. Il est très, très doué, Stéphane Brisé. Et là, j'ai l'impression, bon, j'ai pas vu Hors saison, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu plus intimiste.
C'est très intimiste, hein. Il n'y a pas de revendication spéciale. Peut-être. Pas vraiment une revendication, mais un beau sujet sur l'amour, sur l'acceptation de est-ce que finalement je suis heureux ou pas dans ma vie sentimentale et même dans la vie tout court. Ça, c'est notamment pour le personnage de Guillaume Canet. Pour la relation amoureuse, c'est le personnage de Alba Rohrbecker, ou j'arrive jamais à le dire.
Oh, oui, moi non plus.
Je crois que c'est une actrice italienne en plus. Parce que dans le film, elle a un accent italien, et justement, d'ailleurs, il joue dessus à un moment. Mais ouais, c'est. Bon, il y a quand même. Moi, j'avais quand même des. Enfin, pas des attentes, mais pendant le film, je me suis dit, la fin, ce serait bien que ça termine comme ça. Ça termine à la fois comme ça, et pas vraiment comme ça, parce qu'il y a un événement, et que. que moi sur le coup ça m'a, j'étais en mode fallait pas faire ça, fallait accepter les choses comme elles sont. Je trouve que ça aurait été plus beau, et au final en fait ils font quelque chose qui est très en fait ça casse le truc. Je trouve que la fin, oui, elle met du temps à se mettre en place en fait. En fait, il continue en fait, mais ça sent que c'est un peu forcé et que faut que ce soit la belle fin, alors que au final, à un moment, c'était clairement, si tu termines le film là, c'est parfait quoi.
Ah, tu penses qu'il aurait pu s'arrêter plus tôt ?
Ouais, je pense que il y a un moment où ça sent que c'est limite forcé pour aller chercher l'happy ending, alors que c'était pas forcément une fin mauvaise que moi je pensais qu'elle allait arriver, mais c'était une fin logique en fait, qui aurait dû être comme ça. Et au final, ouais, le dernier quart d'heure du film à peu près, ça part un peu en mode tu forces là, c'est compliqué.
D'accord, pour avoir une fin plus heureuse, un happy end.
Ouais, voilà. Et encore, c'est pas vraiment heureux, mais c'est juste qu'en fait, il y a un élément qui fait que les personnages sont entre guillemets plus heureux. Genre, il y a quelque chose qui change dans leur esprit, et que c'était peut-être un peu pour faire une sorte de tension à la fin. Alors que tu terminais le film comme t'as fait tout ton film, de manière calme, posée, sobre, tranquille. Et je trouve que, parce qu'en plus le film il est vraiment sur cette image là, la colorimétrie, si j'arrive bien à le dire, la musique et tout, parce que c'est très blanc, la musique très posée, un peu jazz de temps en temps. Non, c'est vraiment bon.
D'accord, tu conseilles.
Oui, je recommande. Je dirais pas de partir un quart d'heure avant la fin, regardez quand même à la fin, hein, mais oui, à un moment où on peut se dire ça c'est la fin du film et le reste c'est un univers parallèle entre gros guillemets, que si c'était plus heureux. Mais je trouve que la fin entache un peu le film, mais le film reste très bon, qu'on oublie un peu presque.
Ok, eh bien je crois qu'il est encore à l'affiche,
sûrement,
et pas pour longtemps je pense.
Le film il est sorti le 20 mars, donc il y a 3 semaines à peu près. Ouais, donc, c'est pas un film.
Allez-y vite, hein, si vous voulez le voir, ne le manquez pas.
Guillaume Canet est d'ailleurs très bon.
Oui, très bon, c'est un bon comédien, bon acteur, quand il est bien dirigé. Peut-être meilleur acteur que réalisateur.
Le seul film de mémoire qu'il a réalisé, c'est le dernier Astérix. Après, il a peut-être réalisé. C'est pas lui qui a réalisé Les Petits Mouchoirs, quelque chose du genre.
Si. Oui.
J'ai pas vu ce film, faut que je le regarde.
Il est, il tire les larmes. Il tire un peu les larmes. Et oui, comparé à Astérix, il est pas. Ça va. Il arrive à s'en sortir, mais oui, Astérix, ça a pas été une très bonne expérience, que ce soit pour lui ou pour nous.
Oui.
Eh bien, il nous reste 10 minutes. Je vais essayer de vous parler d'un autre film. Alors c'est pas trop happy end. D'ailleurs, là, trigger warning, avertissement, je vais parler d'inceste. Donc, c'est le documentaire de Christine Angot, donc son premier film qui s'appelle donc Une famille. Et Christine Angot est une autrice écrivaine d'une vingtaine de romans qui évoque beaucoup sa vie personnelle et familiale, dont le viol qu'elle a subi à 13 ans par son père. Et donc, elle en parle notamment dans son roman L'inceste, sorti en 1999. Alors, c'est quelqu'un, qui est connu comme autrice. Moi, je ne connais pas ses livres, et du coup, je découvre son histoire dans ce documentaire. Donc, elle a réalisé avec Caroline Champetier en tant que chef opératrice. Caroline Champetier, qui est très, très reconnue dans le cinéma, elle a vraiment travaillé avec beaucoup de réals. Et donc, le film est très, très dur et très bouleversant. Et ça commence par une scène qui peut choquer parce que, pour être assez rapide, Christine Angot, en fait, elle a aujourd'hui 65 ans. Elle a rencontré son père pour la première fois à 13 ans. Donc voilà, c'est 13 ans où elle a été donc violée. Donc c'était la première fois qu'elle le rencontrait. Et donc son père qui avait quitté sa mère avant sa naissance, en fait. Et donc il avait fait sa vie avec une autre femme avec laquelle il a eu deux enfants. Et donc le début du film commence par en fait une entrée violente de Christine Angot chez cette femme, donc la femme de son père, père qui est décédé. D'ailleurs, et en fait, elle entre chez cette femme parce que ça s'est passé sous son toit, le viol, le premier viol qu'elle a subi. Et donc, Christine Angot cherche la reconnaissance, en fait, une écoute de sa famille pour ce qui lui est arrivé. Et aujourd'hui, en fait, avec la libération de la parole, avec MeToo inceste, on écoute différemment les victimes, contrairement à l'époque où elle sort son livre en 99, où elle est méprisée, par les médias, par les critiques, elle est traitée, enfin c'est immonde, en fait, comment on voit, en fait, dans le film des extraits d'une émission de télé, l'émission Tout le monde en parle, avec Thierry Ardisson, qui est ignoble. Et c'est extrêmement violent. C'est vraiment une honte de comment c'était perçu, l'inceste. Et donc, le documentaire a... avec différentes matières, donc voilà, les archives... télé, mais aussi les archives vidéo de Christine Angot et puis les entretiens donc qu'elle mène et qui sont filmés par Caroline Champetier sont bouleversants. C'est donc des entretiens avec la femme de son père, sa mère, son ex-conjoint et sa fille, et on est vraiment dans une libération de la parole qui est vraiment intéressante, et c'est pas un procès de ce qu'elle a vécu ou une recherche de justice, hein. Elle est vraiment, enfin moi j'ai l'impression qu'elle est dans une recherche de prise de conscience de la parole d'une victime et de la parole de son entourage, en fait, qui est une prise de conscience de ce que vit la victime dans le cas des incestes. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que la réalisatrice est écrivaine, donc elle est violente, en fait, dans son procédé. C'est là où je trouve que c'est pas facile en tant que spectateur et spectatrice, c'est de voir comment elle interroge, ses proches, où on se trouve, où du coup on se demande où se trouve la véritable violence, en fait, parce que le viol est évidemment violent, mais aussi l'entourage qui manque d'écoute, donc c'est un film à aller voir, c'est quand même c'est très très dur, très très dur.
C'est pas un sujet facile. Ouais, non, non. Il me semble avoir déjà entendu parler de cette histoire.
C'est possible, oui. Ça fait longtemps, hein, effectivement, qu'elle en parle.
Oui, non, mais il me semble en avoir déjà entendu vaguement parler. Mm-hmm. Et oui, c'est bien que ce soit enfin bien mis en valeur. Enfin, en valeur entre à l'image, au plus grand public, quoi.
Effectivement, c'est vrai qu'elle en a toujours parlé à l'écrit. Et du coup, elle passe à l'image, elle passe à un niveau, en fait. C'est un peu comme un prolongement de son écriture. Oui.
C'est toucher plus de monde possible encore.
Effectivement, ça doit toucher un plus large public. Enfin, moi, je ne connaissais pas ces livres, j'avais pas eu cette occasion, et puis elle montre aussi d'autres choses, comme ses archives aussi, ses archives personnelles vidéo, ses archives vidéo qui la montrent, elle et sa fille. Et c'est là aussi, c'est un peu tout un travail psychologique de ce qu'elle a pu vivre. Donc c'est intéressant à regarder, mais encore une fois, c'est très très dur.
Oui, il faut aller le voir, mais âme sensible à s'abstenir.
Oui, c'est ça. Eh bien, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu veux dire quelques mots de Cocorico ou
Je peux plutôt parler rapidement de Kung Fu Panda.
Punaise, mais oui, Kung Fu Panda, oui, pardon. Vas-y.
Non, je peux dire que c'est un film popcorn sympathique, mais moins bon que les trois premiers.
Après avoir vu le documentaire Une famille, oui, voilà. Aller voir Kung Fu Panda 4.
Ça vous fera passer un meilleur moment. Le film est OK. Il est réalisé par Mike Mitchell, qui avait réalisé le premier film Troll, qui a révisiblement réalisé Kung Fu Panda 3 également, et qui a réalisé La Grande Aventure Lego 2, pour parler d'animation. Le film, du coup, je viens de le dire, il est moins bien que les trois premiers. Il est sorti 7 ans après le dernier, et je trouve qu'il manque beaucoup d'âme, ce film.
Ah oui, d'accord.
Il est très sympa. En fait, les premiers films, ils avaient quand même une approche un peu philosophique au-delà du film d'animation pour enfants, très drôle, et encore pour enfants, pour tout le monde, quoi. Mais qui avait quand même une approche philosophique. Alors, je pense notamment aux deux qui est, moi, le plus marqué, et qui, à certains passages, pas que pour les enfants. Il y a des passages, je prends notamment le 2 parce que c'est vraiment celui que j'ai le plus en mémoire, où c'est vraiment dur, quoi. Les enfants vont peut-être pas comprendre ce que les adultes vont comprendre. Et c'est ça un peu dans toute la trilogie. Et en fait, ce quatrième film, il se perd un peu dans ça, en fait. Il privilégie l'humour et beaucoup le fanservice, parce qu'on peut le dire, la méchante, c'est la caméléone, qui est nulle en kung-fu, mais qui, par des pouvoirs magiques, en fait, réussit à absorber les capacités d'autres personnages. Et à un moment, elle réussit à rentrer en contact avec le monde des esprits, je crois que ça s'appelle comme ça. Et elle réussit à récupérer les pouvoirs, je peux le dire, de toute façon, c'est dans la bonne annonce, c'est dans le synopsis, les pouvoirs de certains anciens méchants, qui notamment donc les trois premiers méchants. Et alors le fan service c'est complètement raté par contre dans ce film. Il ne sert à rien à part du coup pour justifier un combat final entre gros guillemets. Moi ça m'a fait très mal en plus de voir des personnages que j'adore faire coucou et puis se faire battre en 2 secondes alors que les mecs c'est des monstres en réalité trop forts. Donc ça m'a un peu énervé, mais et le film, il est drôle, il est agréable. Certaines séquences sont vraiment ingénieuses, notamment dans une sorte de ville un peu moderne, là où les premiers films se déroulaient dans une vallée très traditionnelle. Donc c'est très bien fait. Il y a une scène de combat à un moment où on ne voit pas vraiment les personnages, on voit leurs ombres. Ça, pareil, j'ai trouvé ça très ingénieux, mais c'est quelques éclairs de génie dans un film. Pas moyen, ce serait méchant de dire moyen. OK, un film OK. Oubliable, c'est un peu le film qu'on voit passer sur Gulli le soir,
d'accord,
et qu'on regarde pas trop.
Donc vous pouvez ne pas le voir au cinéma, c'est pas bien grave.
Et non, faut le regarder un jour, peut-être pas au cinéma. Moi j'étais le voir parce que j'adore les trois premiers films. Mm-hmm. Que d'ailleurs j'étais sympa, j'ai pas regardé les films avant pour ne pas avoir trop de jugement et juste me fier à la mémoire. Et du coup, que aux deux, parce que le 1 et le 3, je les ai moins vus, donc je les ai moins en tête. Mais j'ai passé un agréable moment. Faut aller le voir, mais peut-être pas au cinéma. Faut le voir hein, quand même.
OK. Eh ben, merci beaucoup, Arthur, pour cette heure d'émission à parler cinéma. C'était bien agréable.
Merci à toi.
Alors, restez sur Radio Campus Orléans parce qu'après, c'est donc l'équipe de Chip Meadow qui va prendre la relève et nous passer du bon son. Alors, on se fait un film. Eh bien, c'est tous les mercredis de 19h à 20h. Moi, je vous retrouve dans 2 semaines, mais mercredi prochain, c'est l'autre émission avec Vincent, Arnaud, Lucas. Voilà, donc on vous souhaite une très bonne soirée. Et
une bonne soirée à tous nos auditeurs.
À très bientôt sur Radio.